Bienvenue dans le débat, il est consacré à l'Allemagne au lendemain des élections législatives. Avec qui et à quel moment Friedrich Merz va-t-il constituer une coalition? Se dirige-t-on vers une grande coalition CDU-SPD? Quelles leçons peut-on tirer de ce scrutin et notamment du score du parti d'extrême droite? Quel choix va faire l'Allemagne sur la défense face à l'Europe? Quelle sera sa politique vis-à-vis de l'Ukraine et quelle sera sa place en Europe? Merz a déjà réagi sur le nouveau contexte géopolitique imposé par Trump. Le futur chancelier dit se préparer au pire scénario dans les relations transatlantiques. On va faire ce débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Miard-Delacroix. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne universitaire. Et vous avez contribué avec Guillaume Erner à 4 épisodes d'une série. Une série sur France Culture et c'est une série sur Alice Weidel, la leader de l'AFD. En face de vous, Richard Verlier est avec nous. Bonsoir Richard.
Bonsoir Stéphanie.
Bienvenue, correspondant France-Europe pour Blink. Vous avez réalisé plusieurs reportages à Nuremberg la semaine dernière. Vous allez nous en dire plus. Nous avons par Skype de Nuremberg, Ingeborg Grassle. Bonsoir, justement, Nuremberg, députée du Bundestag. Vous êtes une députée CDU-CSU et vous étiez une ancienne, vous étiez députée européenne avant d'être au Bundestag. Bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous avoir. Avec vous, Armand Zorn. Vous êtes, vous, en studio à Berlin. Vous êtes, vous, également député du Bundestag, mais vous êtes SPD, donc le parti de Olaf Scholz, le parti social-démocrate. Bienvenue à vous également. On fait tout de suite un débrief, on regarde les résultats, les tout derniers résultats. Est-ce que ça donne nombre de sièges? Vous allez voir. La CDU, 208 sièges. Le SPD, 120 sièges. L'AFD, vous voyez, 152 sièges. Elle passe en numéro 2, le parti d'extrême droite. Et Die Linke, 64 sièges. Un taux de participation élevé avec plus de 86%. Donc c'est vraiment un taux important. Et avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de faire un retour en image, justement, avec Étienne Papoenaud.
Arrivé en tête, mais avec un score de 28,6% plus faible qu'espéré, Friedrich Merz doit désormais négocier pour former un gouvernement. Fidèle au traditionnel cordon sanitaire qui bannit toute alliance avec l'extrême droite, le leader de la CDU n'a d'autre choix que de tendre la main au SPD.
Je suis déterminé à mener des discussions constructives de qualité et rapides avec les sociodémocrates.
Après une campagne au cours de laquelle Friedrich Merz a revendiqué une droite sans tabou aux propositions radicales sur l'immigration, sceller une coalition noir-rouge entre conservateurs et sociaux-démocrates pourrait pourtant s'avérer ardu. Ensemble, CDU et SPD contrôleraient 328 des 630 sièges du nouveau Bundestag. Une faible majorité que l'état-major social-démocrate ne semble pas enclin à bâtir sans concession.
Il n'est pas certain que le SPD fasse partie du prochain gouvernement. Je veux être clair, la balle est dans le camp de Friedrich Merz. Il cherche le dialogue, qu'il mène des négociations.
Friedrich Merz devra aussi composer avec le fait majeur de cette élection, la poussée de l'extrême droite. Forte d'un score historique au-delà des 20%, sa chef de file Alice Weidel entend acculer la CDU et le SPD sur les questions budgétaires et migratoires qui les divisent.
Nous deviendrons la force la plus puissante et nous remporterons un mandat pour gouverner lors des prochaines élections fédérales.
Friedrich Merz a promis de former sa coalition au plus tard pour Pâques, le 20 avril. Panne économique, choix majeur en matière de défense, bouleversement de l'alliance transatlantique, aide à l'Ukraine. Les défis, aussi importants que nombreux, s'accumulent en Allemagne.
Ingeborg Grassle, je démarre avec vous parce que vous êtes représentative sur ce plateau de la CDU, donc le parti majoritaire qui a remporté l'élection. Friedrich Merz dit qu'il veut constituer une coalition rapidement. À votre avis, c'est pour quand et avec qui?
C'est clair que nous avons toujours exclu une coalition avec personne, sauf avec l'extrême droite, mais c'est clair que pour nos membres et pour notre électorat, c'est très difficile de les faire. Donc, je veux vraiment en faire recours aux sociodémocrates. Je les appelle à des négociations très constructives parce qu'il faut maintenant rétablir l'économie. C'est le devoir majeur et toutes les questions de la politique extérieure et de défense que vous avez énumérées.
Est-ce que vous appelez à une grande coalition comme d'une temps d'Angela Merkel, CDU, SPD?
Non, en fait, les sociodémocrates sont derrière l'extrême droite. nous ne pouvons pas faire une grande coalition parce que le cordon sanitaire est très important. Aussi longtemps que l'extrême droite se comporte comme il se comporte là, on ne peut pas faire coalition avec eux. Ça, c'est très clair. C'est à eux de changer, ce n'est pas à nous de changer. Donc, c'est clair qu'on doit faire recours aux sociodémocrates et j'espère que les sociodémocrates vont vraiment pouvoir faire le pas. Je sais que ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils ont vraiment eu une défaite très sévère.
Armand Zorn, défaite très sévère, hein, effectivement, pour le SPD, donc avec le sortant, le chancelier Olaf Scholz. Est-ce que vous pensez que votre parti, les sociodémocrates, sont prêts à constituer, à discuter avec Frédéric Merz pour constituer une coalition ?
Nous sommes bien prêts à discuter. Il s'agit bien de garantir la stabilité de l'Allemagne. Il faut un gouvernement en place qui sera capable de reprendre tous ces défis qu'on a en ce moment. Mais je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas d'automatisme. Il est très important de négocier au plus vite possible, mais le contenu est aussi exactement important. Donc il y a quelques points qui sont très importants pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Et si, à la fin, il y aura une coalition, ça dépend bien sûr du contenu. Et la balle est dans le camp de la CDU et la CSU qui ont gagné les élections. Donc c'est à eux de mener les débats et c'est à eux de faire aussi des efforts pour qu'on ait un gouvernement très prochainement en place.
Oui, donc il faut des efforts des deux côtés. Hélène Miard de la Croix, il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs comment ça marche en Allemagne. Donc cette coalition, elle peut prendre des mois. Ça, c'est tout de même le problème, puisque la dernière, donc celle avec Angela Merkel, hein, je parle de la coalition justement qui existait à l'époque entre CDU et SPD, elle avait mis 6 mois à se mettre en place en 2017. Et je ne parle même pas de la dernière où il y avait 3 partis. Et là, c'était pratiquement un an.
Alors, quand Mme Merkel avait mis 6 mois à faire un gouvernement finalement de grande coalition, donc entre les conservateurs et les sociodémocrates, ça avait duré parce que d'abord, on avait essayé de faire une coalition avec les Verts. Et il y avait eu donc tout l'ensemble des négociations, la recherche de compromis. Et comme ça avait échoué, et on s'était retourné vers donc cette autre possibilité, cette autre constellation qui avait fini par aboutir. Là, alors moi, j'ai un regard qui est extérieur, d'analyse. Il n'y a pas tellement d'autres choix. Parce que un gouvernement entre les Noirs, les chrétiens démocrates et les Verts... numériquement, ça ne suffit pas. Ils sont en dessous de 300. Il faut 316 sièges, donc personne, pour avoir 50% des voix du Bundestag qui soutiennent le gouvernement. Il n'y a pas d'autre combinaison possible. Donc il est clair que chacun des deux partis dit qu'on ne va pas tout lâcher. Ça fait partie aussi, et c'est normal, de la stratégie au moment où on entre dans des négociations. Simplement, je suis convaincue que les deux côtés, les deux partis, ont bien conscience qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre et qu'il va falloir trouver un terrain d'entente et un texte commun.
Il parle de Pâques. Je vais refaire, je reposerai la question à Ingeborg de Grassel. Il parle à peu près de Pâques. Frédéric Merz, ça vous semble possible, Richard? On a un moment crucial, un moment géopolitique crucial en ce moment.
Oui, moi je partage cet avis. Et la manière dont Friedrich Merz, dès le soir de l'élection, a quand même prononcé des paroles importantes, notamment sur la relation transatlantique, c'est qu'il semble-t-il assez sûr de son coup. Donc il veut avancer vite, il veut avancer sans doute avec le SPD pour une raison simple, c'est qu'une coalition à deux, c'est bien plus simple à gérer qu'une coalition à trois. Et je rappelle que celle d'Olaf Scholz, elle est tombée précisément parce que c'était une coalition à trois et le pied FDP libéral a chuté à tel point d'ailleurs que les libéraux ne rentrent pas au Bundestag puisqu'ils sont sous la limite des 5%. Donc a priori, il y a quand même des facteurs qu'on voit qui devraient conduire à une formation assez rapide du gouvernement. Moi, lorsque j'étais à Nuremberg, où se trouve Madame la députée, on me parlait du mois d'avril. Avril, c'est dans un mois et demi. Ça paraîtrait standard allemand, quand même assez rapide.
Oui, Ingeborg Grassle, une coalition avant avril, ça vous semble possible? Ça serait effectivement très rapide pour l'Allemagne.
Si les sociodémocrates prennent leurs responsabilités pour le pays, tout est possible. C'est clair qu'on ne peut pas négocier déjà des projets de loi sur les projets importants. Il faut être suffisamment ouvert. Il faut aussi tirer les leçons de l'échec du gouvernement sortant. Et un des points d'échec, c'était qu'ils étaient suffisamment flexibles pour pouvoir réagir à des événements qui sont arrivés là, par exemple la guerre en Ukraine. Tout ça les a vraiment coûté des majorités parce qu'ils se sont collés à leur texte, à leur traité pour la coalition. Là, je crois qu'on doit faire mieux cette fois-ci. C'est au moins ce que nous, on aimerait suggérer aux sociaux-démocrates.
Ça veut dire se mettre d'accord peut-être sur les hommes avant de se mettre d'accord sur un programme ?
Se mettre d'accord sur les grandes lignes qu'il faut prendre, et les grandes lignes, ce sont claires, parce que c'est avant tout la politique extérieure qui est maintenant en premier chef, mais c'est aussi l'économie. Il faut relancer l'économie et il faut réussir la transformation. Alors les questions sont très claires, quoi faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas à négocier à l'éternité. C'est clair qu'il faut maintenant prendre des décisions. À Pâques, on n'aura pas de gouvernement depuis 5 mois. Et là, on sent ça parce qu'on ne peut pas prendre des décisions. Et là, il faut prendre des décisions. Notre économie attend ça. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, voilà, on attend encore 6 semaines, 7 semaines, et après, on va quitter l'Allemagne avec notre production. On perd chaque mois 9 000 postes d'emploi dans l'industrie. Alors, c'est le temps de réagir. Et je crois que les sociaux-démocrates auront la responsabilité nécessaire pour le faire.
Armand Zorn, vous avez ce sentiment d'urgence que décrit Ingeborg de Grasle face notamment au moment, au contexte géopolitique qu'on connaît. Vous aussi, au SPD, vous le ressentez ?
Oui, bien sûr, il y a bien sûr ce sentiment d'urgence. Je pense qu'il est nécessaire de former un gouvernement stable. Mais je tiens à revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de s'aligner sur les grandes lignes. Et déjà, même quand on parle des grandes lignes, il y a certaines divergences dans les questions de la sécurité sociale, dans les questions de la sécurité, dans les questions de la migration, aussi un peu plus dans la question de l'économie. Quels sont les instruments qu'il faut pour remettre l'économie en marche ? Donc je pense qu'il est très important de s'aligner sur cette grande ligne, je suis bien d'accord, mais je pense que ça nécessite des efforts des deux côtés, du côté du Parti social-démocrate ainsi que du Parti chrétien-démocrate, et c'est ça la base en fait pour une stabilité. S'il n'y a pas de confiance entre les deux partis, ou alors entre les trois partis, il ne faut pas oublier la CSU, s'il n'y a pas de confiance entre ces trois partis, il n'y aura pas vraiment une base pour un gouvernement stable qui va pouvoir gérer l'Allemagne pendant ces prochaines années. Donc nous voyons bien cette urgence, mais je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que la CDU vient de gagner les élections que tout doit se passer le plus vite possible. Il y a quand même certains points de différents, il y a quand même cette divergence que nous devons régler avant de penser d'un gouvernement.
On va revenir d'ailleurs sur les divergences en matière de défense notamment. Un mot, Armand Zorn, sur tout de même cet échec cuisant pour Olaf Scholz. Quelle leçon en tirez-vous ?
Je pense qu'on aura encore besoin de quelques temps pour faire une analyse totale, mais je tiens quand même à rappeler que ce qu'on a vu en Allemagne, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays ces dernières années. Un gouvernement sortant qui n'a pas eu la confiance du peuple, qui n'a pas été réélu, c'est bien ce qu'on a vu aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ce qu'on a bien vu aussi en France, si je compte bien des dernières élections législatives. Et je pense qu'au final, nous l'avons perdu. Si vous voyez les trois partis qui ont eu la confiance aux dernières élections, ils n'ont pas su regagner la confiance de la population. Et je pense qu'il y aura besoin vraiment d'un projet de renouveau au sein de la social-démocratie pour se rassurer que le futur soit un peu mieux.
Et Lannemière de la Croix, un mot sur la victoire tout de même, pas la victoire. Le score assez historique de l'AFD qui double, me semble-t-il, depuis le dernier scrutin, le nombre de voix, donc qui devient le deuxième parti au sein donc, du Bundestag, mais qui n'a pas fait le mieux, enfin c'est déjà très bien, 20%, mais conformément au sondage, finalement, ce résultat, alors qu'il y avait eu des ingérences d'Elon Musk, de J.D. Vance, on aurait pu penser que les ingérences américaines auraient boosté finalement leur score. Qui est resté conforme à ce que disaient les sondages,
D'abord, il est clair que c'est historique, parce que non seulement c'est doublé ses voix par rapport aux précédentes élections, mais les précédentes élections, c'était il y a 3 ans. Et donc, c'est une hausse extrêmement rapide, surtout depuis 2013, quand ce parti a été créé. Il est entré en 2017 au Bundestag. Alors maintenant, sur la réalité, ce chiffre qui correspond finalement au sondage, il est extrêmement difficile de mesurer quel est l'impact des différents facteurs. Parce que on sait qu'il y a eu des ingérences russes qui ont été parfaitement identifiées, y compris avec des manipulations grossières de propagande en prétendant qu'on détruisait dans les arrières bureaux de vote des bulletins qui auraient été bien mis pour l'AFD, etc. Et puis bien évidemment l'ingérence d'Elon Musk. C'est très difficile de savoir qui ça a emmené à voter vers l'AFD, parce qu'en même temps, il y a eu une participation extrêmement importante et une montée de la gauche radicale, Die Linke, qui peut être aussi mesurée comme une réaction précisément à ces ingérences et à la, la menace que faisait peser l'AFD en disant ça va être 20%, 21%, il ne baisse pas. Donc peut-être que finalement, il y a plus de gens qui sont allés voter et que ça a maintenu l'AFD à ses 20%, alors que d'aucuns ont peut-être été convaincus quand même par l'ingérence américaine.
Richard Verly, vous qui étiez sur le terrain, vous avez, oui, j'imagine, vous avez pris le pouls justement de cette progression de l'AFD au sein de l'électorat en Allemagne.
Oui, absolument. Mais d'abord, pour compléter ce qui vient d'être dit, je ne sais pas si on l'a, mais il faut regarder une carte de l'Allemagne. Et si on regarde une carte de l'Allemagne, vous voyez qu'il y a deux Allemagnes. Et en Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, l'AFD fait entre 30 et 40% dans des Länder comme la Thuringe, comme Saxe-Anhalt ou comme la Saxe. Et je crois que c'est important à dire, parce que de ce côté-là, ce n'est pas très surprenant, puisque les dernières élections régionales, ils les avaient remportées. Moi, ce qui me semble quand même assez frappant, c'est que bien sûr, il faut parler de score historique, bien sûr, on le comprend qu'il soit extrêmement réjoui à l'AFD, mais il n'y a pas eu d'effet Elon Musk. Parce que quand j'étais à Nuremberg, qu'est-ce que j'ai entendu? J'entendais des gens me dire, mais vous savez, on va passer grâce à Elon Musk de 20 à 25%. Il y aura un effet Musk, vous verrez, surtout chez les jeunes. Eh bien, les jeunes, ils ont voté Die Linke, je viens de voir une étude.
C'est-à-dire le parti d'extrême gauche?
Absolument. Le parti de gauche radicale, qu'on pourrait peut-être qualifier plutôt de proche d'un parti communiste à l'ancienne, en quelque sorte. Parce qu'il y avait aussi à la gauche radicale, le parti de Sarah Wagenknecht, qui est très aligné sur Vladimir Poutine. Et donc, l'équation, elle est un peu plus compliquée. Bien sûr, c'est un succès électoral pour l'AFD, mais c'est une défaite pour ceux qui voulaient imposer l'AFD à tous les autres partenaires, c'est-à-dire à M. Musk et M. Benz, parce que pour l'instant, l'AFD restera aux portes du pouvoir et avec une capacité de nuisance, elle a beau parler Madame Weidel, mais une capacité de nuisance assez limitée dès lors que la majorité est assurée entre les deux partenaires potentiels du gouvernement, à savoir la CDU-CSU et le SPD.
Et le SPD, donc à condition que cette coalition bien sûr prenne forme. Ce nouveau contexte de géopolitique avec Trump et sa rupture avec les Européens, Emmanuel Macron à Washington en ce moment, un appel avec le G7 et on entend que Friedrich Merz veut se préparer, il le dit, le futur chancelier allemand, au pire scénario dans les relations transatlantiques. On va l'écouter.
Comme toujours, il faut envisager le pire des scénarios. Si aux États-Unis, ceux qui ont pour devise l'Amérique d'abord, voire l'Amérique seule, l'emportent, alors ce sera difficile. Mais je garde l'espoir que nous parviendrons à maintenir la relation transatlantique. Comme je l'ai dit, c'est dans notre intérêt mutuel.
Ingeborg Grassle, est-ce que Friedrich Merz sort du cadre traditionnel d'avant, c'est-à-dire un parapluie américain, cette relation transatlantique très, très développée entre l'Allemagne et les États-Unis, qui, l'Allemagne qui comptait toujours sur l'Amérique pour garantir son indépendance? Est-ce qu'on passe à autre chose aujourd'hui avec le discours de Friedrich Merz? Est-ce qu'il défend aujourd'hui une défense européenne?
Non, il n'y a pas plus transatlantique que Friedrich Merz. Il a des relations très étroites avec les États-Unis. Il connaît bien les États-Unis. Il était président de l'Atlantic Group. Et pourtant, lui, il voit avec grand étonnement, avec déception, ce que fait président Trump. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait nous. Et c'est clair que nous, l'Europe, on doit se préparer. Et là, je crois qu'il veut dire qu'on doit se préparer au pire. Qu'est-ce que Trump fait avec l'OTAN? Et nous faisons tous des soucis quand on voit comment il traite l'Ukraine. Ça nous laisse tous bouche bée. Et là, il faut s'attendre au pire. Et là, je crois qu'il essaie de préparer les différents scénarios qu'il pourrait y avoir. Mais je suis sûre qu'il fera tout pour que ces scénarios ne prennent pas réalité.
C'est-à-dire,
il n'y a pas plus transatlantique que lui, vraiment.
Donc ça veut dire que
Trump, c'est une déception si énorme, c'est dans nos gènes, c'est dans notre DNA, ce que les bonnes relations avec les États-Unis, c'est quand même incroyable. Là, il faut se préparer. Là, le président Macron a raison. Il faut se préparer. Il faut se préparer à deux. La France et l'Allemagne doivent vraiment maintenant mener l'Union européenne à ces nouveaux temps.
Donc vous dites se préparer à ce que l'OTAN, en tout cas à ce que les États-Unis ne garantissent plus la sécurité en Europe, c'est ça que vous voulez dire, clairement?
Voilà, c'est ça. Là, les scénarios sont déjà clairs. on doit pouvoir remplacer au moins une partie de ce que font les États-Unis maintenant pour l'OTAN. Ils ont une drôle de stratégie pour tout ce qui est transport, pour tout ce qui est voilà, reconnaissance. Et là, il faut vraiment se préparer à pouvoir prendre ça nous-mêmes. Et c'est ce que veut dire M. Merz. Et je suis sûre que tout le monde est même d'accord de ça.
Ça veut dire une défense européenne aussi ou simplement une augmentation des dépenses militaires en Allemagne?
Voilà, une défense européenne, une industrie de défense. On a déjà commencé, il y a plusieurs projets. Il y a le char franco-allemand, il y a toutes sortes de projets qui ont éprouvé une certaine... Il faut accélérer ces projets. Parce que c'est clair, c'est techniquement toujours compliqué, financièrement toujours compliqué, mais maintenant, il faut les accélérer. Et je crois que là, on peut compter sur M. Merz. C'est quelqu'un qui a de très bonnes relations aussi avec l'Union européenne. L'Union européenne doit jouer maintenant un autre rôle que ce qu'on a connu, nous, dans le passé.
Armand Zorn, justement, est-ce que le SPD est prêt à faire partie de cette coalition avec ces choix que Ingeborg Grasslöf vient donc de nous dire, c'est-à-dire le choix d'une défense européenne dans laquelle appartiendrait l'Allemagne, une augmentation des dépenses militaires en Allemagne. Est-ce que le SPD épouse ces choix?
Premièrement, je me pose vraiment des questions si cette sortie médiatique de Friedrich Merz était vraiment nécessaire. Je pense que sur le fond, je suis d'accord, nous sommes d'accord. Il est bien nécessaire que l'Allemagne continue à faire ses devoirs. Il est très nécessaire que nous investissions plus en matière de défense. Et je pense aussi qu'une forte collaboration européenne est nécessaire. Mais je tiens aussi à signaler qu'une coopération européenne, ça passe aussi par des moyens financiers et des moyens d'investissement à l'échelle européenne. Donc là, je me réjouis de voir quelques débats et quelques négociations avec la CDU et CSU sur ces questions aussi. Mais personnellement, je pense qu'il n'était pas nécessaire de mener ce genre de débat par les médias, c'est ce que je regrette et ce que je ne comprends pas au final. Je pense qu'au fond, nous sommes d'accord, si vous voyez ce qu'on a fait dans la dernière coalition avec le Sondervermögen, avec le Zeitenwende, c'est bien sûr un peu plus d'investissement et nous savons très bien que ce n'était que le début et qu'il va falloir un peu plus, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Mais je pense quand même qu'il est très important que nous essayions de garder de très bons liens avec les États-Unis. La relation transatlantique est une fondation pour l'Allemagne. Et je pense qu'il est important que nous essayions d'avoir des bons liens. Et pour moi, cette sortie médiatique, jusqu'à présent, je ne comprends pas très bien son objectif.
Et sur l'envoi de troupes éventuellement européennes en Ukraine pour une garantie du cessez-le-feu, est-ce que vous, au sein du SPD, vous seriez favorable? Parce qu'on sait que Olaf Scholz était toujours très réticent sur l'envoi de troupes et d'ailleurs sur l'envoi même des missiles, des Taurus.
Je pense que cette question ne se pose pas maintenant. Je pense qu'il est très important de mener cette question le jour venu. Je pense qu'elle est un peu prématurée en ce moment. En ce moment, il est très important que nous supportons l'Ukraine et que nous soyons dans une position très importante qui fait en sorte qu'au final, la paix ne soit pas négociée entre les États-Unis et la Russie. Je pense que c'est ça maintenant le plus important. Et aussi, pour revenir sur le Taurus, je regrette un peu le débat qu'on a mené en France. Parce qu'après tout, l'Allemagne a été l'un des plus grands supporters de l'Ukraine. Environ 28 milliards de support pour l'Ukraine juste en matière militaire. Et je compte aussi les 1,2 million de réfugiés ukrainiens qui sont en Allemagne. Je compte aussi l'aide financière et budgétaire que l'Allemagne a pu apporter à l'Ukraine. Mais malheureusement, dans certaines parties de la société, surtout de la presse allemande, nous avons toujours eu ce débat autour d'une certaine arme ou alors d'une certaine sorte d'arme que je regrette un peu. Mais au final, je pense que la majorité de la classe politique allemande et aussi la majorité de la société a été vraiment très solidaire avec l'Ukraine. Et comme vous voyez derrière moi, aujourd'hui, il y a des démonstrations ici sur la porte de Brandenburg qui prouvent à quel point la population allemande est solidaire avec l'Ukraine. Et je pense que ça va continuer jusqu'à ce qu'on ait la paix en Ukraine.
Et l'admire de la Croix, justement, est-ce qu'ils peuvent s'entendre, la CDU et le SPD, sur cette idée de défense européenne? On a l'impression que oui, en entendant nos deux députés sur ce plateau. Est-ce que vous pensez, vous, que cette période de Merkel, Schröder, du gaz russe d'un côté, une protection américaine, que c'est terminé, ça?
Ah bah, je pense que c'est tout le monde a à peu près compris que c'était terminé. Bon, le gaz russe, c'est terminé. L'OTAN, c'est plus qu'une surprise, c'est une stupéfaction, cette mise en question, cette possibilité. Quand on repense à la réaction un peu choquée qu'avaient les Allemands quand le président Macron, il y a 7 ans, disait il faudrait faire attention, il faudrait développer un deuxième pilier, il faudrait avoir une autonomie stratégique en Europe. La réponse a été tant de la part de Mme Merkel que ensuite de la part de M. Scholz, donc des deux parties en question, de dire que ce genre d'idées pouvait mettre en question notre engagement complet dans l'OTAN et l'idée que c'était dans l'OTAN qu'on allait être protégé. Bon, c'est pas pour que les Français aient l'impression d'avoir eu raison avant les autres. Simplement, je crois que là, on va assister à un virage à 180 degrés de l'Allemagne que Friedrich Merz a annoncé lors de sa grande conférence à la Fondation Körber le 23 janvier, bien évidemment, ne force pas le SPD à le suivre, mais qui quand même donne des lignes en disant notamment qu'il fallait simplifier et standardiser la production d'armement entre les différents pays d'Europe, qu'il fallait aller de l'avant et qu'il fallait même envisager, il ne l'a pas dit comme ça, mais pour un peu faire l'exception et de faire un endettement commun européen, comme on a été capable de le faire pour lutter contre le Covid, on pourrait être capable de le faire pour faire cet effort. Parce que si en effet l'OTAN se désengageait, il n'y a pas de temps à perdre.
Oui, la réalité, c'était très intéressant d'entendre le député du SPD, parce que la réalité, c'est que ce gouvernement sortant, le gouvernement d'Olaf Scholz, je rappelle quand même, il vient d'être lourdement sanctionné par les électeurs. C'est-à-dire que...
Pas forcément pour son soutien à l'Ukraine.
Oui, mais écoutez, il y a plusieurs éléments, mais le fait est que sur le dossier de l'Ukraine, même si c'est vrai, le robinet de l'aide allemande a fonctionné et que l'Allemagne a donné plus que la France, le député a raison de le rappeler, il n'empêche que ce gouvernement a été quand même relativement timoré en matière d'aide militaire et il a, à plusieurs reprises, renaclé. Et donc, c'est un gouvernement qui, aujourd'hui, a été battu dans les urnes et donc, de la part du SPD, me semble-t-il, ce serait quand même, je ne dirais pas malvenu, tout est possible dans des négociations politiques, mais de devenir le frein à une nouvelle posture volontariste allemande qui est celle de Friedrich Merz, dont l'Europe a besoin, pas seulement l'Allemagne, mais l'Europe a besoin. Est-ce que le SPD d'aujourd'hui a intérêt à être au fond un frein européen? J'avoue que je m'interroge.
On va écouter Emmanuel Macron. C'était il y a un petit moment lors de sa conférence de presse avec Donald Trump à Washington, justement sur un éventuel envoi de troupes européennes pour maintenir un cessez-le-feu en Ukraine, éventuel.
Nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée.
Voilà, l'envoi de troupes qui observeront que la paix est bien respectée. Je voulais faire réagir Ingeborg Grassle. Est-ce qu'effectivement, il pourrait aller jusque-là, Friedrich Merz, c'est-à-dire faire en sorte que l'Allemagne envoie également des troupes en Ukraine pour garantir ses sécurités, la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe, dans le cas où un cessez-le-feu serait effectivement signé? Votre réaction?
Vous savez, vous discutez des très grandes questions ici. C'est une question qu'on discute derrière les coulisses en Allemagne depuis plusieurs mois. Donc, notre ministre de l'Extérieur, les Verts, s'est déjà prononcé là-dessus, a demandé ça même. Les socialistes n'ont pas voulu. À mon avis, il faut soigneusement négocier cette question. Il faut vraiment être viable pour nos partenaires internationaux aussi, pour l'Ukraine aussi. C'est une question dont je ne peux pas vous dire oui ou non, mais moi, personnellement, je serais favorable que l'Allemagne prenne ses responsabilités. La question est de savoir, est-ce que notre armée est capable de faire ça? De quoi a besoin l'Ukraine pour surveiller un cessez-le-feu? Et c'est dans quel cadre de temps. Là, cette question ne peut pas se résoudre en oui ou en non. C'est trop complexe, vraiment, pour ce oui ou non. Mais à mon avis, c'est une question qu'on doit résoudre ces prochains mois, si je vois bien ce qui se prépare là, autour du président Trump.
En tout cas, il y a une possibilité du côté de la CDU à vous entendre. Armand Zord, du côté du SPD, est-ce qu'on serait prêt aussi à envoyer des troupes allemandes dans le cadre donc d'envoi de forces européennes pour garantir la sécurité en cas d'un cessez-le-feu en Ukraine ?
Sur ce point, je suis d'accord avec ma collègue parce que je pense que la sécurité en Ukraine ne dépend pas d'une mesure en fait. Je pense qu'au final, dans la situation où nous sommes en train de discuter d'une paix, on va un peu regarder quelles sont les mesures nécessaires pour garantir une stabilité et une paix durable en Ukraine et qu'est-ce que l'Allemagne peut apporter. Bien sûr que la question des troupes allemandes se pose aussi, mais à ce moment, je trouve ça très difficile de répondre à ça et je tiens aussi à rappeler que la Bundeswehr, l'armée allemande, est une armée qui a besoin de l'accord du Parlement et qui a vraiment vu de cette manière. Donc toute cette question sont des questions qui ne sont pas forcément au cœur de l'exécutif, mais plutôt au cœur du pouvoir législatif. Donc je trouve que ce ne serait pas juste et ce ne serait pas aussi approprié à cette situation de le dire ce soir sur un plateau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'Allemagne peut apporter beaucoup. L'Allemagne a apporté beaucoup et pourra apporter beaucoup pour garantir une stabilité en Ukraine. Et le moment venu, nous allons regarder tous les instruments, toutes les mesures et nous allons faire le bon choix.
Et l'ennemi de la Kralau aussi, on est quand même à un tournant 180 degrés en Allemagne.
Oui, en même temps, je comprends tout à fait, M. Zorn, c'est difficile, alors même que les négociations n'ont pas encore débuté, de prendre des positions et de les mettre sur la table. Je pense qu'il faut qu'on soit un tout petit peu patient, qu'on respecte cette démarche.
Il y a urgence.
Oui, alors c'est vrai, mais nous avons le droit d'en parler.
Emmanuel Macron a annoncé ça auprès de Donald Trump. Donald Trump a d'ailleurs dit que Vladimir Poutine n'y serait pas opposé à la présence de forces européennes, justement, pour une garantie de sécurité.
C'est tout à fait juste, mais nous devons, je crois, aussi, nous, les partenaires les plus proches de l'Allemagne, respecter ce temps. Alors on peut les encourager à être efficaces et rapides, mais je pense qu'il faut respecter ce jeu, ces procédures où chacun doit apporter, parce que si on veut faire un bon gouvernement de coalition, il faut que ce soit un compromis, mais positif, c'est-à-dire pas chacun tient absolument à une partie, on fait une petite concession et on ne lâchera pas sur le reste. Il faut vraiment trouver une ligne commune, sinon on l'a bien vu avec le précédent gouvernement, chacun va tirer de son côté et on n'avancera pas. Je pense que là, il y a vraiment c'est le travail des négociateurs.
Le travail des négociateurs, mais cette histoire de sécurité européenne et de participation éventuelle des troupes allemandes, c'est et tout de même clé, c'est ce qu'a l'air de dire Ingeborg Grassle.
Oui, absolument, mais de toute manière, c'est clé pour l'Europe aujourd'hui, et il est vrai que le calendrier est accéléré. On sait que Donald Trump adore accélérer, que c'est sa stratégie. Oui. Il pousse au maximum, au fond, ses propositions et il voit les réactions. Donc il faudra sans doute, disons-le, même si vous avez raison de souligner que le processus de négociation à l'allemande doit être respecté, il faut sans doute s'attendre à ce qu'il y ait des coups de boutoir, des moments où le gouvernement allemand, pas encore formé, devra néanmoins apporter des réponses, parce que c'est comme ça que Trump fonctionne. En plus, Trump doit quand même être assez vexé du fait que son parti favori, l'AFD, n'a pas eu complètement le résultat escompté. Et donc, s'il peut essayer de mettre des divisions ou s'il peut essayer de bousculer les Allemands, il ne s'en privera pas.
Ingeborg Grassle, on entend dire que Friedrich Merz pourrait négocier aussi avec les libéraux et les verts avant justement que le nouveau Bundestag prenne place sur la création d'un fonds d'urgence qui pourrait investir dans la défense.
Oui, j'ai entendu ça aujourd'hui et moi personnellement, je ne suis pas en faveur. On a élu un nouveau Parlement, alors c'est le nouveau Parlement qui doit pouvoir traiter ces questions. Et à mon avis, on a d'autres possibilités, sauf de changer la Constitution. On a d'autres possibilités aussi, et je ne crois pas que c'est une bonne idée pour l'acceptation de ce genre de mesures dans la population. Les gens seront très, très, très fâchés. Et ça va encore renforcer l'extrême droite. C'est pour ça que moi, j'aimerais mettre en garde contre ce genre, contre cette procédure.
Donc ça, c'était une idée qui vous semble une très mauvaise idée. Mais c'est bien Merz qui l'a émise.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis à Nuremberg. Je suis en route vers Berlin. Je n'ai pas été à Berlin. Je suis aussi un des membres élus. Donc nous sommes 200 collègues. Et là, il faudrait qu'on nous écoute aussi. Ah, si c'est la majorité qui trouve que c'est une bonne idée, Alors je me plie, mais moi, j'ai mon mot à dire là-dessus.
L'alternative, ça serait effectivement, vous mentionnez, changer la Constitution, parce qu'il y a une... C'est constitutionnel aujourd'hui que la dette allemande ne puisse pas augmenter. Il y a un frein à l'endettement qui a été mis en place en 2009, ça date donc de Merkel, et c'est dans la Constitution allemande, donc ça ne permet plus à l'Allemagne d'augmenter sa dette. Je crois que c'est 0,35% du PIB pour l'État fédéral. Mais changer la Constitution, Ingeborg Grassle, ça demande une majorité de 2/3, c'est ça ?
Oui, à mon avis, oui, c'est ce qu'il faut. À mon avis, on peut faire ça dans un budget. Le gouvernement peut vraiment proposer ça. Nous pouvons voter ça avec majorité simple. Il ne faut pas changer la Constitution, à mon avis. Et Mme von der Leyen a déjà proposé de ne pas prendre les frais pour la défense dans le frein de dette européen. Donc, on peut faire analogiquement en Allemagne.
Donc en fait, vous pouvez compter sur effectivement l'évolution du pacte de stabilité en Europe pour ne pas avoir à modifier la Constitution pour que l'Allemagne puisse financer avec des dettes supplémentaires, des dépenses militaires supplémentaires.
À mon avis, on a suffisamment d'instruments sans ça. On a suffisamment d'instruments, à mon avis. Il faudrait au moins me convaincre que ça ne marche pas.
D'accord, donc vous l'excluez quand même pas totalement, une éventuelle modification de la Constitution.
Je ne suis pas convaincue. Imaginez, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Ce n'est pas une bonne idée. Pour la démocratie, ce n'est pas une bonne idée. Vraiment, je suis persuadée. Et là, j'ai aussi le droit à mon avis.
Armand Zorn, le SPD, est-ce qu'il serait favorable soit une modification de la Constitution pour permettre donc un endettement allemand plus important ou une subtilité, la création d'un fonds d'urgence éventuellement pour financer les dépenses militaires allemandes ?
Si vous permettez, je veux un peu revenir sur ce que ma collègue vient de dire, et je pense que très bientôt, la CDU va faire face à la réalité, parce que c'est très bien qu'on a une opposition et on peut faire un programme de campagne électorale où on promet tout, sans vraiment changer la vie de manière négative pour les Allemands. Mais une fois qu'on est au gouvernement, ça rend bien compte qu'il y aura certaines contraintes. Et je pense que nous nous trouvons dans une situation où nous voulons relancer l'économie, ce qui va coûter de l'argent, parce qu'il faut qu'on investisse un peu plus. Nous trouvons dans une situation où nous voulons investir un peu plus pour la sécurité, ce que nous partageons d'ailleurs. Et de l'autre côté, nous avons aussi une situation sociale en Allemagne qu'il ne faut pas oublier. Donc je pense qu'à un moment, il va bien falloir prendre son temps, regarder un peu les choses de manière claire et trouver une solution qui marche pour les deux parties, aussi pour la CDU, je tiens à le préciser, mais pour l'Allemagne. Et c'est pour ça que quand je dis que ça va mettre du temps et quand je dis que bien sûr qu'il est très important de trouver un accord de manière le plus rapide possible, mais après il y a aussi quelques décisions et quelques divergences qu'il faut bien régler, je pense exactement à ça. Concernant l'investissement, nous sommes ouverts à cela, mais je pense aussi que comme ma collègue l'a dit, je pense aussi qu'il y a pas mal d'autres instruments qui sont en conformité avec la loi fondamentale allemande, donc il ne faut pas tout à fait changer la loi fondamentale allemande pour faire en sorte qu'on puisse avoir un peu plus d'investissement. Mais je pense que ce moyen serait un moyen le plus efficace et aussi le plus clair en matière budgétaire. Donc c'est ça justement, ces détails qu'il faut discuter et qu'il faut négocier pendant les prochaines semaines.
C'est-à-dire éventuellement créer un fonds d'urgence, Armand Zorn, pour financer les dépenses militaires ?
Je pense que oui, c'est ce qu'il va falloir faire. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire, mais après, c'est pas qu'une question économique, purement économique, ou alors une question de conviction politique, mais je pense aussi que c'est une question de majorité. Et vous avez parlé du Bundestag et la répartition au sein du Bundestag. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Est-ce qu'il y aura une majorité pour changer la loi fondamentale ? Est-ce qu'il y aura une majorité pour mettre une loi spéciale pour la Bundeswehr en place ? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Et je pense qu'il est très important qu'on prenne le temps et qu'on le fait vraiment dans un détail nécessaire. Parce que je tiens à le dire aussi, après la dernière coalition, nous sommes bien rendus compte que les questions financières et les questions budgétaires sont les questions qui ont poussé ce gouvernement à tomber. Et si ces questions ne sont pas vraiment, vraiment réglées dès le début, je pense qu'il n'y aura pas vraiment une stabilité. Et je pense que ça peut créer des problèmes de confiance. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre son temps.
Hélène Miard de la Croix, un mot sur le couple, futur couple Macron-Merz. Mm-hmm. Ça va mieux marcher que Macron-Scholz, a priori ?
Alors je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Alors peut-être parce qu'on a peut-être un peu noirci la mésentente ou la mauvaise qualité de l'entente entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron.
Vraiment ?
Mais c'est quand même pas un secret. C'est quand même pas un secret.
Oui, non, ça n'a pas vraiment un secret.
Ça n'a pas bien fonctionné. Friedrich Merz a, de par sa culture politique à l'intérieur de la CDU, il est plus héritier de Helmut Kohl que de Angela Merkel. C'est vraiment cette tradition rhénane, orientée vers l'ouest de la CDU. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a aussi dit, avant même que cette campagne se vienne de plus en plus tendue, qu'il mettrait tout de suite l'accent sur le couple franco-allemand et le triangle de Weimar avec donc les Polonais, que c'était important et que seulement comme ça, on pourrait retrouver une dynamique et une présence de l'Allemagne en Europe. Il ne veut plus, a-t-il dit, entendre parler toujours du German vote, c'est-à-dire que à Bruxelles, tout s'arrête toujours parce que les Allemands disent veto, non, je ne peux pas, etc. Je pense que là, il y a une volonté d'aller de l'avant.
Oui, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis assez d'accord.
Richard,
il n'y a pas que la culture politique, il y a aussi...
Donc ça fonctionnerait mieux, hein, Macron.
Il y a l'itinéraire du personnage, oui. Merz, que personnellement je ne connais pas, je ne suis jamais allé à une de ses conférences de presse, oui. Mais ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui arrive du secteur privé, oui. Puisqu'il a fait cette parenthèse par le secteur privé, il était avant au Bundestag, il dirigeait le groupe CDU, puis il est parti dans le privé, il dirigeait ce fonds d'investissement américain BlackRock, il a donc une culture très, j'allais dire, des milieux d'affaires qui plaît à Emmanuel Macron. Et ça peut fonctionner. Alors que Olaf Scholz était un ancien maire de Hambourg, c'était quelqu'un qui était très soucieux, je dirais, de l'État allemand, du fonctionnement, des règles de fonctionnement allemande qu'Emmanuel Macron ne connaît pas. Donc on voit bien chez les deux hommes, chez Emmanuel Macron, il y a la disruption érigée en vertu. Ça ne marche pas toujours, mais il continue d'y croire. Et chez Friedrich Merz, il semble qu'il y a une envie, je dis bien une envie, de disruption. Alors peut-être que ça peut coller.
Ingeborg Grassle, vous aurez le mot de la fin là-dessus. Macron-Merz.
Je crois que ça va bien marcher parce que le Merz va vouloir que ça marche. On a besoin du couple franco-allemand pour faire bouger l'Europe, pour faire bouger vraiment ces grandes questions. C'est pour ça que je suis sûre qu'il fera son mieux pour que ça marche bien. Et c'est clair que ce courant politique français a aussi besoin d'un succès. Là, je crois qu'il est sensible parce que les démocraties vivent des temps très, très durs en ce moment en Europe.
Merci beaucoup, Ingeborg Grassle, d'avoir été avec nous en direct de Nuremberg. Merci à vous, Armand Zorn. Vous étiez avec nous en direct de Berlin. Merci donc à tous les deux. Merci, Hélène Miard de la Croix, d'avoir participé au débat. Merci beaucoup, Richard Verli. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.